إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bienvenue à tous, أهلا وسهلا ومرحبا بجميع المستمعين والمستمعات، حياكم الله على طاعتي. Donc nous allons poursuivre l'explication du livre intitulé Les six fondements de l'éminent savant Cheikh al-Islam Mohammed Ibn Abdel Wahhab, Rahimahullah, Rahmatan Wasi'a. Et nous nous sommes arrêtés au deuxième fondement. Lorsque l'auteur nous dit: le deuxième fondement est qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné l'union dans la religion et a interdit la division dans celle-ci. Il a expliqué cela de façon suffisante, comprise par les gens ordinaires. Il nous a interdit d'être comme ceux qui se sont divisés et ont divergé avant nous, et qui ont ainsi péri. Il a mentionné qu'il a ordonné aux musulmans l'union dans la religion, et leur a interdit de se diviser dans celle-ci. Et ceci est encore plus clair avec ce qui est rapporté dans la sunna, comme chose étonnante à ce sujet. Puis la situation est devenue telle que la division sur les fondements de la religion et ses branches est désormais considérée comme étant la science et l'instruction en religion, et celui qui soutient l'union en religion est considéré comme hérétique ou fou. Ici, l'auteur, rahmahullah, rahmatan wasi'a, mentionne le deuxième fondement. Parmi les six fondements qu'il a exposés dans ce livre. Et avant d'expliquer la parole de l'auteur, j'aimerais faire une introduction pour clarifier un point important. Certes, l'union dans la religion est l'un des plus grands fondements des gens de la sunna. Et les choses qui indiquent cela sont nombreuses. Parmi elles, nous avons le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné l'union dans de nombreux versets. Il y a aussi le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné ce fondement dans de nombreux ahadiths. Et aussi les savants de la sunna ont toujours donné une très grande importance à ce fondement. Tu ne trouveras pas en règle générale un livre qui traite de la croyance sans que l'union y soit mentionnée. Et dans ces livres, les savants ont détaillé ce fondement. Et l'une des causes qui les a poussés à faire cela, ikhwani fillah, c'est le grand besoin qu'a la communauté de s'unir sur la religion. Car comme vous le savez, il y a de nombreuses divergences. Et donc plus il y a eu de divergences, et plus les savants de la sunna ont clarifié ce fondement. Car la règle chez les pieux prédécesseurs est que plus les gens ont besoin d'une chose dans la religion, et plus ils la clarifient. Prenons l'exemple de l'époque de l'imam Ahmad, Ibn Hanbal, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde. Avant l'époque de l'imam Ahmed, les gens de la Sunna ne clarifiaient que très rarement que le Coran n'est pas créé et que c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, car il n'y avait pas forcément besoin de rappeler cette chose aux gens. Mais à l'époque de l'imam Ahmed, lorsque les troubles ont éclaté, et que certaines personnes parmi les gens de l'innovation ont propagé que le Coran est créé, jusqu'à ce qu'ils arrivent à convaincre certains gouverneurs de cela, les pieux prédécesseurs ont été forcés de clarifier que le Coran n'est pas créé, et que c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que quiconque affirme que le Coran est créé est mécréant. Quand est-ce qu'ils ont été obligés de clarifier ce point? Lorsque les gens en avaient le plus besoin. Donc après avoir fait cette petite introduction, nous allons revenir donc à la parole du Cheikh. Donc il dit, rahimahullah, le deuxième fondement est qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné l'union dans la religion. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne dans le Coran de s'unir sur la religion, car certaines personnes s'unissent sur d'autres choses que la religion. Prenons l'exemple des Juifs qui se sont unis sur le fait que Uzair est le fils d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala dit à leur sujet dans sourate At-Tawba, وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ بْنُ اللَّهِ. Et les Juifs ont dit que Uzair est le fils d'Allah. Tandis que les chrétiens se sont unis sur le fait que Isa est le fils d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala dit à ce sujet, toujours dans le même verset, وَقَالَتِ النَّصَارَ الْمَسِيحُ بْنُ اللَّهِ. Et les chrétiens ont dit que le Messie est le fils d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et les gens de l'innovation se sont unis sur leurs innovations. Alors que l'union qui est demandée, c'est l'union dans la religion. Et la question que l'on peut se poser, ikhwani fillah, est qu'est-ce que veut dire l'union dans la religion? Car c'est un terme qu'on entend souvent. L'union dans la religion, il faut s'unir sur la religion. Mais qu'est-ce qui est voulu par s'unir dans la religion? Et la réponse à cette question est que l'union dans la religion, c'est s'unir sur le livre d'Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec la compréhension des pieux prédécesseurs. La preuve de cela réside dans le verset 103 de surat Ali Imran. Allah subhanahu wa ta'ala dit « Wa'atasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu » Allah dit selon la traduction rapprochée: attachez-vous tous au câble d'Allah et ne vous divisez pas. Et l'éminent savant, Cheikh Salih Al-Fawzan, a mentionné que le câble d'Allah, c'est le Coran et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Avec cette explication, nous comprenons clairement qu'il est obligatoire que l'union soit sur le Coran et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il ne peut pas avoir d'union sur autre chose que le Coran et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et je tiens ici à réfuter une ambiguïté connue des gens de l'innovation, surtout la secte appelée Al-Ikhwan Al-Muslimoun, les frères musulmans. Car ces gens-là s'unissent avec n'importe qui. Tu peux les voir s'unir avec des gens qui insultent les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu peux les voir s'unir avec des gens qui adorent les tombes. Tu peux les voir s'unir également avec certaines personnes parmi les groupes terroristes. Et lorsque tu vas les questionner sur cette union et qu'il est interdit de s'unir dans ce genre de situation et avec ce genre de personnes, ils vont mentionner ce qu'ils appellent al-qa'idatu al-dhahabiyya, ce qu'ils appellent leur règle d'or, qui est nous nous entraidons sur quoi nous sommes d'accord et nous nous excusons les uns les autres sur quoi nous divergeons. Et ça, c'est la règle d'or chez les frères musulmans. Et il n'y a pas de doute que cette règle contredit le Coran et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et elle contredit certains fondements de notre religion. Parmi les fondements que cette règle vient contredire, il y a l'interdiction du blâmable. Car comme il est venu dans le Coran et la sunna, le musulman doit ordonner le bien et interdire le blâmable. Et lorsque tu t'unis avec des gens qui insultent les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu n'as pas interdit le blâmable. Lorsque tu te réunis avec des gens qui adorent des tombes, tu n'as pas interdit le blâmable. Lorsque tu t'unis avec des gens qui rendent mécréants les musulmans, tu n'as pas interdit le blâmable et tu n'as pas ordonné le bien. Alors qu'il est obligatoire pour le musulman d'ordonner le bien et d'interdire le blâmable. Et les preuves à cela sont nombreuses. Parmi ces preuves, nous retrouvons la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui voit une chose blâmable, qu'il la change avec sa main, s'il ne peut pas avec sa langue, et s'il ne peut pas alors avec son cœur, et ceci est le plus bas degré de la foi. Et donc ce que font les frères musulmans montre qu'ils ne se soucient pas de cette chose qui est importante, qui est premièrement de s'unir sur le Coran et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et secondement, ordonner le bien et interdire le blâmable. Naam. Donc l'auteur, il nous dit, le deuxième fondement est qu'Allah a ordonné l'union dans la religion et a interdit la division dans celle-ci. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala a interdit la division dans la religion. Ceci pour plusieurs raisons. La première raison est que la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala est unique. Il est donc obligatoire de s'unir sur cette voie et de ne pas se diviser. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans surat al-Fatiha, « Ihdina surat al-mustaqim »« Guide-nous sur la voie droite » Et Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi dans le verset 153 de sourate Al-An'am, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili. Allah subhanahu wa ta'ala dit selon la traduction, telle est ma voie dans toute sa rectitude, suivez-la donc et ne suivez pas les sentiers qui vous écarteraient de la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxièmement, car la division est une caractéristique des polythéistes. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le verset 32 de sourate Ar-Rum, وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ. Il dit, selon la traduction, ne soyez pas du nombre des polythéistes, de ceux qui fractionnent leur religion et se divisent en sectes, chacune se réjouissant de ce qu'elle détient. Troisièmement, car la division, ikhwani fillah, est une cause d'affaiblissement. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le verset 46 de sourate Al-Anfal, وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. Il dit selon la traduction, obéissez à Allah et à son messager et ne divergez pas, sinon vous fléchirez et perdrez votre force. Et lorsque l'auteur, rahimahullah, il nous dit, il a expliqué cela de façon suffisante, comprise par les gens ordinaires. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il a expliqué ce fondement et clarifié ce fondement d'une manière très simple et d'une manière très claire. Il a clarifié cette chose-là tellement clairement que si tu viendrais à réciter à quelqu'un parmi les gens du commun le verset 103 par exemple de sourate Ali Imran, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, attachez-vous tous au câble d'Allah et ne vous divisez pas, il comprendrait qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné l'union et a interdit la division. Et lorsqu'il dit, il nous a interdit d'être comme ceux qui se sont divisés et ont divergé avant nous et qui ont ainsi péri. Ici l'auteur, rahimahullah, nous mentionne l'une des causes qui a poussé les communautés précédentes à l'égarement. Et cette cause est venue dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, donc il a dit comme cela est venu dans le hadith d'Abu Huraira qui est rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ce qui a causé la perdition de ceux qui vous ont précédé et seulement l'excès dans leurs questions et leur divergence avec leur prophète. Et les divergences qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mentionnées dans le Coran sont de deux types. Le premier type de divergence est lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a blâmé l'ensemble des deux parties qui ont divergé. Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le verset 176 de sourate Al-Baqara, « ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ » Allah subhanahu wa ta'ala il dit, « Car Allah a révélé le livre avec la vérité, et ceux qui s'opposent au sujet du livre sont dans une contradiction qui les éloigne de la vérité. » Donc Allah subhanahu wa ta'ala ici, il a blâmé les deux parties qui ont divergé. Le deuxième type de divergence qui a été mentionné dans le Coran, c'est lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait l'éloge d'un groupe et a blâmé un autre groupe. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset 253 de sourate Al-Baqara, ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر. Il dit, mais ils se sont divisés les uns optant pour la foi et les autres pour la mécréance. Donc ici Allah subhanahu wa ta'ala il fait l'éloge de ceux qui ont opté pour la foi et il blâme subhanahu wa ta'ala ceux qui ont opté pour la mécréance. Et cette faïda, c'est l'éminent savant Cheikhul Islam Ibn Taymiyyah qui l'a mentionné. Ensuite, l'auteur, il dit, et ceci est encore plus clair avec ce qui est rapporté dans la sunna comme chose étonnante à ce sujet. Ce fondement, Ikhwani Fillah, a été mentionné clairement dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et cela à de nombreuses reprises. Et la sagesse derrière cela, comme l'ont mentionné certains savants, est que les gens de l'époque pré-islamique, ce qu'on appelle al-Jahiliya, ils étaient divisés. Et lorsque le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, les a trouvés dans cette situation, il les a appelés à l'union dans la religion. Et il faut savoir que tous les prophètes ont appelé à ce fondement immense. Et la preuve de cela réside dans le verset 13 de Sourate Shura, de Sourate la concertation. Allah subhanahu wa ta'ala, donc il nous dit dans ce verset, « Shara'a lakum min ad-din ma wassa bihi Nuha » والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit selon la traduction, il vous a institué en matière de religion ce qu'il a enjoint à Nuh, ce que nous te révélons ainsi que ce que nous avions enjoint à Ibrahim, à Moussa et à Isa. Observez les prescriptions de la religion et ne divergez pas en cela. Et aussi nos pieux prédécesseurs, comme nous l'avons mentionné précédemment, ont appuyé sur ce fondement et l'ont détaillé. Et certains l'ont même mentionné en premier dans leur livre. Prenez par exemple l'imam Ibn Abi Daoud, As-Sijistani, il dit dans son poème intitulé Al-Ha'iyya, dans le premier vers, il dit « Tamassak bihablillahi wattabi'il huda, wala taku bid'iyyan la'allaka tuflihu » Il dit, selon la traduction, « Accroche-toi au câble d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et suis la guidée, et ne sois pas un innovateur, peut-être tu réussiras. » Ensuite, l'auteur, il finit ce fondement en disant « Puis la situation est devenue telle, que la division sur les fondements de la religion et ses branches est désormais considérée comme étant la science et l'instruction en religion, et celui qui soutient l'union en religion est considéré comme un hérétique ou fou. Et il n'y a pas de doute que la parole de l'auteur est véridique, car aujourd'hui celui qui va appeler à l'union des musulmans, il va appeler les musulmans à s'unir sur le Coran et la Sunna, il va souvent être considéré comme un fou. Mais par contre, celui qui appelle à la division, il va être considéré comme un savant. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite. Ensuite, l'auteur, il dit le troisième fondement, et que l'on compte parmi la perfection de l'union, l'écoute et l'obéissance à celui qui nous gouverne, même si c'est un esclave d'Abyssinie. Allah a expliqué cela de façon suffisante sous divers aspects, religieusement et dans les faits. Par la suite, ce fondement est devenu inconnu pour la plupart de ceux qui prétendent la science. Alors comment pourrait-il le mettre en pratique? L'auteur, rahimahullah, a mentionné ce fondement après l'union et l'interdiction de la division. Malgré que l'écoute et l'obéissance au gouverneur rentrent dans l'union. Alors quelqu'un d'entre vous pourrait se demander pourquoi l'auteur a mentionné l'écoute et l'obéissance au gouverneur dans ce fondement alors qu'il rentre dans l'union. Il y a plusieurs causes à cela. La première cause est l'importance de ce fondement. La deuxième est le grand nombre de hadiths qu'il y a concernant ce sujet. La troisième, le grand nombre de personnes qui ont contredit les gens de la sunna dans ce fondement. Et la quatrième et dernière cause, pour conseiller la communauté. Et donc ce fondement, qui est l'écoute et l'obéissance au gouverneur, est considéré comme le pilier du fondement précédent. Car l'union ne peut pas se concrétiser sans l'écoute et l'obéissance au gouverneur. Car le gouverneur a une grande place dans l'islam. C'est lui qui gère les affaires du peuple. Et sans gouverneur, c'est le désordre. L'éminent savant Abdus Salam ibn Barjas, qu'Allah lui fasse miséricorde, mentionne dans son livre Mu'amalatul Hukam ala Dhu al-Kitab wa Sunnah, le comportement à l'égard des gouverneurs à la lumière du Coran et de la Sunnah. Il dit qu'en général, les gens aiment la justice, mais qu'en revanche, ils ne font pas forcément preuve de justice et d'équité. Et que s'il n'y avait pas de gouverneur pour gérer leurs affaires, les gens seront comme les animaux de la jungle, et les poissons de mer, le fort, mangera le faible. Ensuite, il dit, rahimahullah, il nous mentionne un exemple à cela, en comparant les gouverneurs à des panneaux de signalisation. Et il nous dit qu'en leur présence, la circulation est ordonnée et que tout le monde suit les règles, car ces panneaux règlent la circulation. Mais en leur absence, c'est l'anarchie et le chaos. Et les gens iront même jusqu'à s'insulter. Et cela peut mener à l'altercation. Ensuite, il finit sa parole en disant, alors que dire d'un pays sans gouverneur, qui empêche l'injustice et qui rend justice aux ayants droit, il n'y a pas de doute que cela amènera le chaos. Fin de citation. Et donc ce fondement est immense. Les savants de la Sunna lui ont toujours donné beaucoup d'importance, et ceci en tout temps. Et celui qui contredit ce fondement est considéré comme un innovateur. L'obéissance et l'écoute du gouverneur est un fondement chez les gens de la Sunna. Et c'est comme cela que la désobéissance, la rébellion et la sortie contre le gouverneur est un fondement chez certains groupes parmi les gens de l'innovation, tels que les Khawarij et les Mu'tazila, pour ne citer qu'eux. Donc l'auteur, il nous dit, le troisième fondement est que l'on compte, parmi la perfection de l'union, l'écoute et l'obéissance à celui qui nous gouverne. Le fait de ne pas écouter et obéir au gouverneur, ces deux choses font partie des choses de l'époque pré-islamique. L'auteur lui-même, dans son livre intitulé « Masail al-Jahiliya », il dit concernant les polythéistes, il dit, je cite, « La désobéissance à celui qui détient le commandement était un mérite, et l'écoute et l'obéissance, une humiliation et une faiblesse. » Fin de citation. Et l'imam Shafi'i aussi a appuyé cette information dans son livre intitulé Ar-Risala, et il nous dit, selon le sens, les Arabes qui étaient autour de la Mecque avaient de la répulsion pour donner obéissance à celui qui dirige. Fin de citation. Et l'islam, comme l'ont mentionné les savants, est venu pour préserver 5 choses. L'islam est venu pour préserver la religion, l'âme, la raison, l'honneur et les biens. Et il n'y a pas de doute que désobéir au gouverneur et le fait de ne pas l'écouter contredit certains de ces 5 points. Et lorsque l'auteur il nous dit, même si c'est un esclave d'Abyssinie, donc le troisième fondement est que l'on compte parmi la perfection de l'union, l'écoute et l'obéissance à celui qui nous gouverne, même si c'est un esclave d'Abyssinie. L'auteur, il a mentionné l'exemple d'un esclave d'Abyssinie. Et ceci est pris de certains hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans certains hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné aux compagnons l'écoute et l'obéissance au gouverneur, même si celui-ci est un esclave d'Abyssinie. Tout ceci pour nous montrer que le plus important, c'est le fait que cette personne soit gouverneur, et non pas sa nationalité ou son physique. Car dans certains hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam en plus de dire que c'est un esclave d'Abyssinie, il mentionne certaines caractéristiques de son physique. Il dit par exemple, dans un hadith, que sa tête ressemble à un raisin sec. Tout ceci pour nous montrer que cela ne doit pas nous empêcher d'obéir au gouverneur. Car ce que les gens de la Sunna regardent, c'est est-ce que cette personne est considérée comme un gouverneur. Si c'est le cas, alors ils lui obéissent et ils l'écoutent. Et ceci nous amène à mentionner comment on devient gouverneur en islam. Il faut savoir, ikhwani fillah, qu'il y a plusieurs manières et plusieurs façons de devenir gouverneur en islam. La première façon est que le gouverneur en place désigne son successeur. Il dit de son vivant, s'il m'arrive quelque chose, par exemple, c'est mon fils qui va prendre la succession. Et ceci est une façon légiférée. La deuxième façon est que les gens parmi les musulmans se réunissent pour désigner le gouverneur. Mais ce n'est pas n'importe qui va se réunir pour désigner le gouverneur. Ça va être par exemple les savants, les gens qui ont un certain statut, ou voire même l'armée. Par contre, les élections ne rentrent pas dans cette catégorie, car les élections viennent des mécréants et non pas des musulmans. Donc cette deuxième façon, le fait que certains musulmans vont se réunir pour désigner le gouverneur, que ce soit les savants, des gens qui ont un certain statut, ou l'armée par exemple, ceci est une manière légiférée. La troisième manière, c'est de prendre le pouvoir par la force. Ceci est une chose interdite, mais les gens de la Sunna sont unanimes pour dire que si le pouvoir est pris par la force et que par ce fait la personne devient gouverneur, il est obligatoire de lui obéir. L'auteur, il dit par la suite, Allah a expliqué cela de façon suffisante sous divers aspects, religieusement et dans les faits. Allah subhanahu wa ta'ala a clarifié l'écoute et l'obéissance au gouverneur dans le Coran. Et il est important de savoir que cette écoute et cette obéissance doit être dans le bien. Car Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 59 de sourate An-Nisa, « Ya ayyuhalladhina amanu, ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amri minkum. Ô vous qui croyez, obéissez à Allah, obéissez aux messagers et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement. » Dans ce verset, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala parle de son obéissance et celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a mentionné le verbe obéir. Mais lorsqu'il a parlé de l'obéissance des gens qui détiennent le commandement, qui sont selon l'avis le plus juste, comme l'a mentionné Ibn al-Qayyim et d'autres, ce sont les savants et les gouverneurs, Allah n'a pas mentionné le verbe obéir. Et la question qu'on peut se poser est la suivante. Quelle est la cause à cela? Pourquoi lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a mentionné son obéissance et celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a mentionné le verbe obéir, et lorsqu'il a mentionné l'obéissance des gens qui détiennent le commandement parmi nous, il n'a pas mentionné le verbe obéir? La réponse à cela, comme l'a mentionné l'éminent savant Cheikh Abdurrahman ibn Sa'di, qu'Allah lui fasse miséricorde, dans le tefsir de ce verset, il dit « Allah a ordonné l'obéissance aux gens qui détiennent le commandement, mais ceci à condition qu'ils n'ordonnent pas la désobéissance d'Allah. Et si c'est le cas, alors il n'y a pas d'obéissance à la créature dans la désobéissance du Créateur, et c'est peut-être la raison pour laquelle le verbe n'a pas été mentionné pour leur obéissance. » Fin de citation. Donc avec cette information, on comprend que l'obéissance et l'écoute du gouverneur n'est pas dans toute chose. Si par exemple il ordonne une désobéissance, il est interdit de lui obéir. Et il y a aussi un hadith dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant ce point. Hudhayfa ibn al-Yaman rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: après moi, il y aura des imams qui ne suivront pas ma voie et ne se conformeront pas à ma sunna. Ensuite, Hudhayfa ibn al-Yaman demanda au prophète sallallahu alayhi wa sallam: comment devais-je agir au messager d'Allah si une telle situation se présentait à moi? Il répondit: tu écouteras et obéiras au gouverneur, c'est-à-dire dans le bien. Même si on te fouette et que l'on prend tes biens, écoute et obéis. Et bien sûr, ici, écoute et obéis, c'est-à-dire dans le bien. Par la suite, il est important de mentionner que les gouverneurs ont des droits. Il est très important que le musulman étudie ce sujet et qu'il sache que les gouverneurs musulmans ont certains droits. Et nous allons mentionner ici quelques droits que les musulmans, ou plutôt que les gouverneurs musulmans, ont. Le premier droit est leur obéissance dans le convenable, comme nous l'avons mentionné précédemment. Mais par contre, il est strictement interdit de leur obéir dans le péché et la désobéissance. Et la preuve de cela réside dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam: il n'y a pas d'obéissance à la créature dans la désobéissance du Créateur. Le deuxième droit est invoqué en leur faveur. Et ceci est la voix des pieux prédécesseurs. En effet, ils invoquaient en faveur du gouverneur. Al-Fudayl ibn Iyad, radiallahu anhu, disait: si j'avais une invocation exaucée, je l'aurais utilisée en faveur du gouverneur. Et ceci a été rapporté aussi de l'imam Ahmed et d'autres. Et les pieux prédécesseurs allaient jusqu'à considérer l'invocation pour le gouverneur comme signe que la personne faisait partie des gens de la sunna. L'imam al-Barbahari a dit dans son livre Sunna: si tu vois une personne invoquer contre le gouverneur, alors sache que c'est un innovateur. Et si tu vois une personne invoquer en faveur du gouverneur, alors sache qu'il fait partie des gens de la sunna, Inch'Allah. Fin de citation. Mais ici, il est bon de clarifier que ce n'est pas toute personne qui invoque pour le gouverneur qui fait partie des gens de la sunna. Car dans certains pays, les imams de certaines mosquées sont obligés d'invoquer pour le gouverneur lors de la prière du vendredi. Et on peut trouver que cette personne ne fait pas partie des gens de la sunna. C'est pour cela que ce serait une erreur de dire que toute personne qui invoque pour le gouverneur est une personne de la sunna. Mais plutôt, ceci est un signe et non pas une fin en soi. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Le troisième droit, il ne faut pas mentionner leurs défauts et leurs péchés publiquement. Car ceci va mettre de la haine dans le cœur des gens de la masse. Et cela va les pousser à ne plus écouter le gouverneur, ce qui mènera à la division. Et la division est une chose interdite, et ceci est même une caractéristique des polythéistes. Le quatrième droit est le fait de les conseiller. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith de Tamim ibn Aws ad-Dari radiallahu anhu: la religion, c'est le conseil. Les compagnons lui dirent: envers qui? Il répondit: envers Allah, son livre, son messager, les imams des musulmans et l'ensemble de la communauté. Et le hadith est rapporté par l'imam Muslim. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit les imams des musulmans, ceci englobe les gouverneurs et les savants. Et le conseil envers le gouverneur doit se faire en privé, non pas comme font certaines personnes, qui lorsqu'ils veulent prodiguer un conseil au gouverneur, ils le font via le sermon du vendredi ou via les réseaux sociaux. Et lorsque tu les questionnes sur leurs agissements, ils te disent que ceci entre dans le conseil. Et d'autres vont même te dire que ceci rentre dans l'interdiction du blâmable. Il n'y a pas de doute que ceci n'est pas la voie des pieux prédécesseurs. Et la preuve de cela réside dans le hadith qui est rapporté d'après Iyad ibn Ran. Il rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui veut conseiller le gouverneur, qu'il ne le fasse pas en public, mais plutôt qu'il le prenne par la main et s'isole avec lui. Et le hadith, il a été rapporté par Abu Asim dans son livre intitulé As-Sunnah, et il a été authentifié par l'éminent savant Cheikh Al-Albani, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde. Donc ceci, ikhwani fillah, est la voie à suivre. Après avoir entendu cela, on pourrait se demander comment peut-on faire pour conseiller les gouverneurs et pour interdire le mal, car en règle générale, on ne voit pas et on n'atteint pas un gouverneur facilement. En réponse à cette question, il faut savoir tout d'abord que ceci est l'une des raisons qui pousse certaines personnes à mentionner les défauts des gouverneurs musulmans en public, et ce qui les pousse aussi à les dénigrer. Alors qu'en vérité, si tu ne peux pas le conseiller directement, tu te dois de patienter et invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. L'éminent savant Ibn Abdelbar mentionne dans son livre intitulé At-Tamhid, je cite: si tu n'es pas en mesure de conseiller le gouverneur, alors patiente et invoque Allah, car les compagnons interdisaient l'insulte envers les gouverneurs. Fin de citation. Le dernier point que nous allons mentionner concernant les droits des gouverneurs musulmans, c'est de ne pas sortir contre eux. Ceci est interdit. Même si le gouverneur est injuste, le musulman doit patienter face à ses injustices. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a montré la voie à suivre dans la sunna. Et nous avons mentionné déjà ce hadith il y a quelques minutes, et c'est le hadith de Hudhayfa ibn al-Yaman. Donc il rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: après moi, il y aura des imams qui ne suivront pas ma voie et ne se conformeront pas à ma sunna. Et Hudhayfa ibn al-Yaman demanda au prophète sallallahu alayhi wa sallam: comment devrais-je agir au messager d'Allah si une telle situation se présentait à moi? Il répondit: tu écoutes et obéis au gouverneur, même si on te fouette et que l'on prend tes biens, écoute et obéis. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas dit à Hudhayfa de sortir contre le gouverneur, ou de combattre le gouverneur, ou de se rebeller contre le gouverneur, mais plutôt il lui a dit d'écouter et d'obéir le gouverneur. Même s'il est injuste, même s'il te fouette, même s'il prend tes biens, tu écoutes et tu obéis dans le bien. Et donc le hadith, il est rapporté par l'imam Muslim. Et la sortie contre le gouverneur est de deux catégories. La première est sortir contre le gouverneur avec sa langue. Et cela consiste à le dénigrer en public et dévoiler ses péchés. La deuxième sortie contre le gouverneur, c'est sortir contre lui avec les armes, c'est-à-dire se soulever contre lui, comme ce que l'on a pu voir ces dernières années dans certains pays, notamment dans ce qu'ils ont appelé le printemps arabe. Et ces deux catégories sont interdites, en sachant que la sortie contre le gouverneur avec la langue n'est qu'une passerelle vers la sortie contre le gouverneur avec les armes. L'éminent savant Cheikh Abdelaziz ibn Baz, qu'Allah lui fasse miséricorde, il nous dit à ce sujet, je cite: dévoiler les défauts des gouverneurs et les mentionner sur les minbars ne fait pas partie du manhaj des pieux prédécesseurs, car ceci mène au coup d'État et à la désobéissance du gouverneur dans le bien, et cela amène à sortir contre ce dernier ce qui est nuisible et non profitable. Fin de citation. Et ici, j'aimerais attirer votre attention sur un point très important. Car aujourd'hui, nous remarquons que les critiques et les dénigrements envers les gouverneurs musulmans sont en recrudescence, que ce soit sur les réseaux sociaux, ou bien dans les médias, ou même dans les sermons du vendredi. Il faut savoir que ceci est la voix des Khawarij et des frères musulmans. Et aussi, nous avons certaines personnes de nos jours qui remettent tout sur le dos du gouverneur. Ils vont dire que tout ce qui se passe dans les pays musulmans sont de leur faute. Et ceci est une injustice manifeste. Et Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il nous ordonne d'être juste. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit: وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا. Lorsque vous parlez, soyez équitable, même s'il s'agit d'un proche parent. Et l'équité dans cette affaire est de dire que ce qui se passe dans les pays musulmans à l'heure actuelle et dans la communauté musulmane plus généralement est dû à nos péchés et à notre éloignement de la religion. Est-ce le gouverneur qui est la cause que les mosquées sont vides à la prière du Fajr? Est-ce le gouverneur qui ordonne aux gens de délaisser le Coran et de ne pas le lire? Est-ce le gouverneur qui ordonne aux gens de délaisser la mise en pratique du Coran? Est-ce le gouverneur qui ordonne aux gens de faire riba? Est-ce le gouverneur qui ordonne aux gens de faire du shirk et de faire des innovations? La réponse, ikhwani fillah, est connue pour les gens doués de raison. Certaines personnes, qu'Allah les guide, ne sont même pas capables de s'occuper d'une famille composée d'une femme et de 3 enfants. Tu remarqueras des manquements notoires de sa part, mais malgré ça, tu le verras dénigrer un gouverneur qui a à sa charge des milliers de personnes. N'est-ce pas une injustice? Il faut craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Et sachez que le secours de cette communauté passe par la réformation de chacun d'entre nous. Et lorsque l'on changera notre situation, Allah subhanahu wa ta'ala changera notre état. Et la preuve de cela réside dans le verset 11 de sourate Ar-Ra'd, sourate le tonnerre. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit: Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Il dit selon la traduction: en vérité, Allah ne modifie pas l'état d'un peuple tant que les individus qui le composent ne modifient pas ce qui est en eux-mêmes. Tout ce que l'on a pu voir ces dernières années dans certains pays musulmans, là-bas, c'est la sortie contre le gouverneur. Les gens ont commencé par le dénigrer. Dans les lieux publics, les médias, dans certains cours religieux, etc. Et ceci a engendré la colère et la haine des populations qui ont fini par se rebeller et à vouloir renverser le gouvernement actuel. Et cela a fini en bain de sang. Comme vous pouvez le constater dans certains pays, tels que la Tunisie, le Yémen, la Libye et autres. De quoi part tout cela? Le dénigrement, sa part du dénigrement, et mentionner les péchés du gouverneur. Surtout qu'aujourd'hui, il y a des personnes, même des institutions, qui aident certains groupes parmi les gens de l'innovation, tels que les frères musulmans, à arriver à leur fin, c'est-à-dire la sortie contre le gouverneur. Prenons l'exemple, ikhwani fillah, de certaines chaînes télévisées, telles que la chaîne qu'on appelle Al Jazeera, qui est une chaîne qui promouvoit certains groupes déviants, tels que les frères musulmans,
Et ils montrent qu'ils sont clairement contre l'Arabie Saoudite. Et ce qui est désolant, c'est que certains de nos parents, surtout ceux qui comprennent la langue arabe, ils regardent ces chaînes à longueur de journée pour s'informer de ce qui se passe dans le monde. Ils y trouvent l'éloge des frères musulmans, tels que Youssouf al-Qardaoui par exemple, et autres. Et ils y trouvent aussi le dénigrement des gens de la Sunna et de leurs savants. C'est pour cela qu'à l'heure actuelle, beaucoup de personnes, sauf ceux à qui Allah subhanahu wa ta'ala a fait miséricorde, dénigrent ce pays béni qui est l'Arabie Saoudite, ainsi que ses gouverneurs. Et ceci est un vrai danger pour la communauté. Le musulman doit prendre garde à ce genre de chaînes télévisées et à ce genre d'institutions qui ont comme but de propager le faux et d'éteindre la vérité. Ce genre de chaînes ont encouragé les musulmans à se rebeller contre les gouverneurs. Et regardez quel est le résultat. Nas'alullah al-afiyata wa salam. Ensuite, l'auteur il dit « Par la suite, ce fondement est devenu inconnu pour la plupart de ceux qui prétendent à la science. Alors comment pourrait-il le mettre en pratique ?» Le cheikh rahimahullah a certes raison. Celui aujourd'hui qui appelle à ce fondement, les gens vont le dénigrer. Ne voyez-vous pas que certains parmi les gens de l'innovation appellent les savants de la sunna, les savants du palais, car ils appellent à l'obéissance au gouverneur et à aussi écouter le gouverneur, car selon eux, ils disent des choses. Selon eux, ils disent des choses et donnent des fatwas pour plaire au gouverneur et prétendent que les savants de la sunna disent qu'il faut obéir au gouverneur dans toutes choses. Et ceci est faux, car les gens de la sunna ont toujours mentionné que l'obéissance et l'écoute du gouverneur doit se faire dans le bien. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam.